Bienvenue sur Fréquence Jeune Nation, l'émission qui porte la voix d'une jeunesse enracinée, lucide et prête à tout reconstruire. Ici, pas de compromission ni de soumission, la voix d'une jeunesse radicale. Lorsque le système tombera, nous serons là pour rebâtir sur les solides fondations de la nouvelle révolution nationale. Chaque semaine, des débats tranchants, des analyses sans filtre, des invités qui osent dire ce que d'autres taisent. Si vous en avez assez du mensonge, du renoncement, de la soumission, et que vous croyez à la force de la vérité, du courage et de l'identité, alors cette émission est la vôtre. Fréquence Jeune Nation, c'est plus qu'une radio, c'est un point de ralliement. Connectez-vous, montez le son et entrez dans la lutte.
Amis nationalistes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Fréquence Jeune Nation, l'émission des jeunes nationalistes. Bonne année à tous. Que cette année ne soit victorieuse, haut les cœurs. Ce soir, Hilda sera avec nous. Bonsoir Hilda.
Bonsoir Bob, bonsoir à tous les auditeurs. J'espère que tout le monde va bien, je vous souhaite une bonne année, pleine de courage et de combat.
Jacques aussi. Salut Jacques.
Bonsoir Bob, bonsoir à tous les autres participants, à tous les auditeurs. Bonne année à vous tous et meilleurs vœux de réussite pour cette année. Qui commence déjà sur les chapeaux de roue. C'est moi que qui commence déjà à grands chevaux. C'est moi qu'on puisse dire.
Salut Bruce, tu seras aussi avec nous ce soir.
Bonsoir à tous nos auditeurs.
Salut Koba.
Salut Bob, salut à tous les auditeurs et meilleurs vœux nationalistes pour 2026.
Merci beaucoup, meilleurs vœux à tout le monde. Et alors, cette année commence sur les chapeaux de roue, comme vous avez pu le constater avec la crise au Venezuela, l'enlèvement par Donald Trump de Maduro. Comment est-ce que vous avez vécu ça?
Alors,
À vrai dire, Bob, c'est pas vraiment un coup de tonnerre dans un ciel clair, si j'ose dire, car ça intervient finalement dans une permanence géopolitique américaine qui existe depuis la doctrine Monroe. Hein, je rappelle que le New York Post a parlé récemment de doctrine Monroe, hein, pour parler de l'intervention de Donald Trump au Venezuela. Et ça fait référence à la doctrine Monroe du l'Amérique aux Américains, l'Europe aux Européens, résumé très simplement. Alors à l'origine, pour le petite parenthèse historique pour les auditeurs, la doctrine Monroe, c'est une doctrine de non-ingérence externe. C'est l'idée que les Européens se soucient de leurs affaires et les Américains se soucient de leurs affaires. Or, cette doctrine a évolué vers une doctrine d'ingérence interne, dans la mesure où l'Amérique du Sud, finalement, devient, on va dire, la chasse gardée des Nord-Américains, à savoir des États-Unis. Qui interviennent comme bon leur semble. Hein. Il suffit de rappeler qu'entre 47 et 97, donc en 50 ans, il y a eu au moins 83 changements de régime sous l'égide des États-Unis qui sont intervenus dans les affaires d'Amérique latine. Et qu'à ce niveau-là, en fait, ce n'est pas vraiment une surprise.
Ce qui est intéressant dans cette opération, c'est que les États-Unis aussi abandonnent, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, cette espèce de prêchi-prêcha qui consiste à justifier des guerres avec des monologues incessants sur voilà, la liberté, ceci, cela. Là, c'était quasiment assumé comme étant une guerre pour obtenir le pétrole vénézuélien. Voilà. Alors, ça fait la différence puisque les précédents présidents états-uniens se faisaient toujours, comme par exemple George Bush fils ou Barack Obama, se faisaient toujours sur l'égide de la morale, de la guerre contre les dictateurs violents, souvent avec des mensonges, et étaient beaucoup plus brutales et beaucoup plus sanguinaires. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à noter. Et l'autre chose intéressante à noter, c'est les réactions, bien évidemment, qu'a suscité cette opération, notamment certains ont parlé des réjouissances d'une partie du peuple vénézuélien suite à cette chute de Nicolas Maduro, qui est toujours aux États-Unis et qui est accusé donc entre autres de narco-terrorisme. On en reviendra sur ces accusations et sur leur véracité ou non. ou alors est-ce qu'elles sont exagérées ou non? Donc, le problème, c'est que nous avons eu aussi des réactions de réjouissance de gens qui se disent de notre camp, qui ont expliqué qu'en gros, Trump avait libéré un peuple d'un dictateur communiste que c'était très bien, et qui accusait en fait tous ceux qui dénonçaient cette opération d'impérialisme d'être en gros des gauchistes ou des imbéciles qui soutiennent un régime dictatorial. Voilà, on va avoir l'occasion d'en revenir ultérieurement. Je laisse la parole aux autres participants.
Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Koba et dans ce qu'a dit Jacques, c'est qu'il y a, je pense, deux critères dans l'analyse un peu de ce type d'événements internationaux. C'est d'une part, il faut repérer je dirais, les lignes de force traditionnelles qui traversent le monde. Donc, Koba a parlé de la doctrine Monroe que Trump a en effet complètement assimilée, hein. C'est-à-dire la doctrine Monroe aujourd'hui pour même quelqu'un comme Trump, c'est l'Amérique se permet d'intervenir sur tout le continent américain du nord au sud pour satisfaire ses propres intérêts. Donc il y a une ligne, je dirais, traditionnelle qui traverse le temps, et c'est cet impérialisme américain, et notamment cette doctrine Monroe. Et il y a une erreur à ne pas faire cependant, c'est analyser les événements avec une grille de lecture dépassée. Je pense qu'aujourd'hui, la grille de lecture qui est dépassée, c'est la grille de lecture anticommuniste. Depuis notamment la chute du mur de Berlin, la grille de lecture anticommuniste est complètement dépassée. Donc, il faut être capable à la fois de ne pas tomber dans une lecture purement anticommuniste, parce qu'en effet, Maduro n'est pas spécialement de nos amis politiques, on va dire, et à la fois être capable de comprendre les lignes de force traditionnelles. En effet, comme l'a souligné Jacques, certains se sont réjouis un peu dans notre camp au sens large, hein. Sarah Knafo notamment s'est réjouie, mais même des personnalités plus, disons, plus proches de nous. Peut-être certains en partie de la France, mais c'est pas pour critiquer, simplement pour montrer un peu les différences. Mais en effet, sont réjouis sur la base d'un anticommunisme de la chute de Maduro. Je pense que c'est une grille de lecture un peu dépassée.
En parlant de réjouissance, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le peuple vénézuélien, ceux qui se réjouissaient beaucoup avaient souvent la peau blanche, nous ressemblaient plus que les supporters de Maduro. Je sais pas si vous avez, si ça vous a pas sauté aux yeux un peu. Enfin, en tout cas aujourd'hui, par exemple, là, j'ai vu qu'il y a des espèces de brigades motorisées qui se sont constituées, et c'est vraiment des mecs qui ont l'air d'être des locaux, quoi, de l'autochtone plutôt. Sud-américain, alors que ça vous avait pas sauté aux yeux, ou que c'était plus des blancs qui se réjouissaient, non?
Pas particulièrement. Après, on peut supposer effectivement que ceux qui ont tendance à avoir une mentalité plus occidentale, sans rentrer dans le complotisme, ceux qui ont tendance à avoir une mentalité plus occidentale sont plus attirés par le modèle occidental et donc rejettent quand même le modèle politique de Maduro, qui est quand même éloigné justement du modèle politique occidental. Même si c'est un régime communiste, on peut d'ailleurs rappeler qu'il n'y avait pas de banque centrale Rothschild ou autre. Un certain nombre de choses qui maintenaient à l'écart le Venezuela d'un certain type d'ordre mondial malgré tout. Et effectivement, il y a quand même une tendance dans ces peuples en Amérique du Sud, c'est le cas au Venezuela, de vouloir aller vers, parce que à cause d'une gestion catastrophique, notamment de dirigeants socialistes, de vouloir aller vers des modes de gouvernance plus occidentales, plus libéraux. C'est aussi le cas par exemple en Argentine, où toute une partie de la population a effectivement voté pour Milei, dont certains aussi dans notre camp font l'apologie, alors que quand même Milei, c'est quand même une perte totale de souveraineté, notamment sur la question du dollar. Il va à l'encontre de la dédollarisation, il vend vraiment les atouts de son pays, notamment en termes de monnaie, donc de ce qui est essentiel en termes de souveraineté. Et là, on voit bien pourquoi c'est un ami de Trump d'ailleurs, puisque en se soumettant au dollar notamment, l'objectif c'est de faire du dollar une monnaie importante en Argentine, hein, pour Milei. Il s'aligne complètement sur les intérêts des États-Unis. Donc on voit bien quand même qu'il y a une mentalité, à cause d'une mauvaise gestion socialiste de ces pays, il y a une mentalité pour aller vers plus de libéralisme et vers des gestions plus occidentales dans ces pays-là, qui est réelle, donc qu'il ne faut pas nier, mais qui ne nous permet pas cependant, à nous, en tant que nationalistes français et même en tant qu'Européens, de nous positionner.
Jacques, tu as quelque chose à rajouter?
Oui, Bruce fait bien de parler de ce côté malsain qu'il y a en Amérique latine, qui a le problème qu'on a chez nous, mais comment dire, en plus spectaculaire, si j'ose dire, c'est le clivage droite-gauche qui n'amène à rien. C'est-à-dire que la gauche va avoir des aspects qu'elle va s'approprier et on va en faire n'importe quoi. Typiquement, le socialisme, au lieu de redistribuer normalement, elle va favoriser le parasitisme de certaines populations endogènes ou de profiteurs. Et quand je dis profiteurs, je parle pas des pauvres, hein, je parle de ceux qui sont assez malins pour ne pas respecter.
Pour spéculer sur cette crise, non?
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça me fait penser à une scène du film anti-maçonnique Forces occultes, où il y a un parlementaire qui dit « Vous, capitalistes, vous avez amené la misère au peuple, et vous, communistes, vous ne faites qu'exploiter cette misère provoquée par les capitalistes. » C'est un effet ping-pong, chacun contribue à l'autre, mais aucun ne veut réellement régler la solution. Et c'est mentionné dans l'article de René Binet, c'est pour ça que les fascistes sont la plus grande peur des communistes, c'est qu'eux veulent régler la solution. Et pour dire, oui, effectivement, Maduro, bon, n'est pas notre ami politique, mais comme dit Bruce, il y a une grille d'analyse qui est dépassée, qui est l'anticommunisme primaire. Et c'est toujours d'ailleurs le problème avec les idéologies anti, se définir pas en opposition à quelque chose et non pas pour une chose.
Oui, ce que tu veux dire, c'est que c'est toujours mieux de proposer quelque chose que d'être contre. Merci, oui, merci Jacques. Hilda, tu...
Oui, oui. Moi, je voulais revenir sur la façon dont moi j'ai abordé les choses. C'est drôle parce que cet événement m'a fait penser directement aux enlèvements des rois, par exemple Richard Cœur de Lion par Léopold d'Autriche ou Jean de Lebon par les Anglais. Et justement, sur l'exemple de l'enlèvement de Jean de Lebon par les Anglais, à l'époque, l'Angleterre avait demandé une rançon de 3 millions d'écus d'or, ce qui revenait à 12 tonnes d'or, ce qui était énorme. Bien évidemment, c'était une rançon colossale. Et ça avait été une très grande humiliation pour la France à l'époque. C'était le traité de Bretigny, un des traités les plus humiliants qu'on ait connus. Et c'est en fait à cette époque-là que le franc a été créé l'année d'après par l'ordonnance de Compiègne. Le roi avait décidé de créer le franc pour redorer un peu son image royale. D'ailleurs, le franc, ça signifiait que le roi allait redevenir libre. Et c'était un acte très fort. C'était le franc à cheval, d'ailleurs, le roi à cheval, le roi guerrier qui allait reprendre son pouvoir par rapport aux Anglais. Et pourquoi je raconte ça? Parce que bon, de prime abord, ça n'a rien à voir avec l'exemple du Venezuela. Mais c'est parce que, en fait, ce que font les États-Unis actuellement, c'est un rapport de force, comme on pouvait en trouver autrefois au Moyen-Âge, mais on ne mentait pas à l'époque, on ne disait pas que c'était pour la démocratie, que c'était... Non, on assumait tout simplement qu'on était là pour vider les coffres de l'adversaire, et au moins c'était dit. C'était pas cette hypocrisie qu'on connaît aujourd'hui de la part des États-Unis. Mais ce qui est intéressant aussi dans cet exemple que j'ai pris de Jean de Lebon, auquel j'ai pensé assez rapidement, c'est que même si on subit des humiliations très grandes, une guerre économique massive, majeure, on peut toujours se relever. Et c'est ce qu'avait fait le roi à cette époque-là, en reprenant son pouvoir souverain au niveau économique. Rien n'est jamais perdu, finalement. On aurait pu croire qu'après l'enlèvement du roi, la France n'allait pas s'en remettre. Et non, c'est sur cet échec, c'est sur cette ruine qu'on a reconstruit le franc, une monnaie qui a duré pendant 6 siècles et qui a été solide. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la question qui se pose pour nous en tant qu'Européens, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que on continue comme depuis 1945 à être les greffiers des saisies américaines, sans en profiter d'ailleurs, hein, au passage, ou est-ce qu'on décide nous aussi de reprendre notre souveraineté, à l'image du Venezuela qui a priori ne se laissera pas faire, je pense. C'est plutôt ça notre position en tant que Français qu'on doit avoir, à mon avis.
Hilda, tu soulèves une très bonne question qui est justement la souveraineté des États contre un ordre mondialisé et justement cet ordre mondial qui nous bassine depuis des années avec le droit international et avec cet enlèvement, avec cet acte brutal de ce début d'année 2026, on voit très bien que les États-Unis ont bafoué ce droit international.
Alors je pense que les États-Unis... qui sont quand même pionniers en termes de nouvel ordre mondial, bafouent le droit international depuis de nombreuses années. Bien sûr, le droit international pour eux n'existe pas, d'ailleurs il n'existe pas tout court, c'est toujours un rapport de force. Mais derrière ce rapport de force, il y a toujours des mensonges. Là, le mensonge, je pense, qui a guidé cette guerre au Venezuela, c'est la lutte contre le narcotrafic. D'ailleurs, une députée ou sénatrice, une personnalité importante du camp MAGA aux États-Unis, Marjorie Taylor Greene, a dit que si jamais vraiment il y avait une volonté de lutter contre le narcotrafic, et elle est vraiment impliquée dans la lutte contre le narcotrafic, puisque c'est une femme d'extrême droite aux États-Unis avec une certaine importance dans le mouvement MAGA. Elle a dit, bah, les premiers qui doivent lui attaquer, finalement, c'est le Mexique, puisque c'est eux qui importent directement la drogue. On voit mal le rapport avec le Venezuela. Et on sait bien que tout passe par le, beaucoup, en tout cas en termes de délinquance, de drogue ou autre, ça passe par le Mexique aux États-Unis. Et donc, il y a quand même encore ce mensonge, mais ces mensonges, il faut regarder dans le temps long, justement, comme je disais en début d'intervention, pour comprendre. Et si on regarde les États-Unis depuis longtemps, ça fait longtemps qu'à chaque intervention militaire, il y a quand même un mensonge. On peut remonter assez loin. Je pense, par exemple, à 1898, dans la guerre contre l'Espagne, où le motif un peu de mobilisation militaire, ça avait été l'explosion du cuirassé Le Maine. Justement, c'était à l'époque où Cuba, justement, était encore une colonie espagnole. Et justement, ils avaient dit que c'était une mine espagnole qui avait fait exploser le cuirassé. Aujourd'hui, plus personne ne soutient cela, ou en tout cas, il n'y a aucune preuve pour affirmer cela. Et donc, ça avait permis d'ailleurs aux États-Unis à l'époque de mettre déjà main basse sur une partie importante du continent sud-africain, contre les intérêts justement européens, notamment espagnols à l'époque, puisque l'Espagne avait une importance dans ces pays-là, et notamment à Cuba qui était une colonie espagnole. Le deuxième grand mensonge, qui est la deuxième grande intervention militaire, si on remonte un peu près à un siècle, c'est 1914. C'était Wilson, qui s'était d'ailleurs fait, un peu comme Trump, hein, fait lire sur un programme non interventionniste, un programme très pacifiste, c'était le WWW, c'était Winston gagne sans guerre. En anglais, si d'anglais, Wilson win without war, bon, peu importe. Mais donc, c'était un point très pacifiste, et donc, il était rentré en guerre, bon, cette fois-ci, peut-être à l'avantage de la France et des Français, mais il était rentré en guerre sous le motif du torpillage par un sous-marin allemand du Lusitania. Or, aujourd'hui, tout le monde sait que, évidemment, ce bateau transportait des caisses d'obus des USA vers la Grande-Bretagne, et que donc c'était un torpillage de guerre finalement, ce n'est pas un torpillage d'un bateau qui transportait des femmes et des enfants, comme l'a pourtant fait croire au moment de l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, les États-Unis. Le troisième mensonge de guerre, si on remonte un peu dans le temps long, c'est l'histoire de Pearl Harbor, avec aussi Roosevelt, qui d'ailleurs, un peu comme Trump aujourd'hui, s'était fait élire sur un programme pacifiste. Donc on voit bien que Trump lui-même, certains de nos amis croient qu'il a vraiment une volonté pacifiste. Non, il suit quand même un temps long dans l'histoire. Il y a quand même une volonté impérialiste. Et elle est présente encore chez Trump. Donc avec Pearl Harbor, c'était voilà le blocus du pétrole au Japon qui lui avait pas laissé d'autre choix que d'attaquer. Et puis avec tout ce qui entoure aussi l'attaque de Pearl Harbor, c'est-à-dire les Américains qui avaient percé les codes secrets et autres. Et donc finalement, on comprend que l'attaque de Pearl Harbor avait permis aux États-Unis de rentrer dans la Seconde Guerre mondiale. Autre mensonge un peu plus récent, c'était pour le Sud-Vietnam. Encore une fois, on peut être pour ou contre l'intervention du camp occidental dans la guerre au Sud-Vietnam, mais c'était l'épisode du golfe du Tonka qui avait permis aux États-Unis de rentrer en guerre. Là encore, on sait que c'était une histoire factice, comme était factice dans la première guerre du golfe, ce témoignage d'une fausse infirmière avec cette histoire des couveuses du Koweït. Vous savez, c'était cette infirmière qui avait témoigné, qui avait permis justement aux États-Unis d'intervenir. Or, c'était simplement la fille de l'ambassadeur du Koweït à New York, je crois, de mémoire. Donc, il y avait aussi ce mensonge qui avait permis d'intervenir. Et un mensonge encore plus connu, mais plus récent, c'est dans la Deuxième Guerre du Golfe, avec l'histoire des armes de destruction massive qui n'ont jamais existé, avec Colin Powell qui brandit justement cette fiole qui ne contient on ne sait pas quoi, mais en tout cas pas une preuve d'armes de destruction massive en Irak. Donc, à tous ces, sur le temps long, on voit bien ce que les États-Unis n'ont que faire du droit international, que le droit international n'existe pas. On voit bien cette hypocrisie, ces mensonges. On voit bien que même lorsqu'on présente une phase pacifiste ou non interventionniste, les États-Unis ont une tendance impérialiste. On voit bien qu'il y a, dans le temps long, une constante pour les États-Unis, et que cette constante doit nous guider aujourd'hui dans notre réflexion politique, dans cette recherche justement de souveraineté. Il faut considérer quand même les États-Unis comme un ennemi, j'ai envie de dire presque héréditaire, puisqu'il y a aussi cette domination du judaïsme politique sur les États-Unis. Les États-Unis sont sous le magistère du judaïsme politique. D'ailleurs, on a bien vu que qui est-ce qui a félicité Trump de l'invasion du Venezuela, c'est notamment Netanyahou. Donc Israël est derrière cela. Il y a aussi d'ailleurs les dossiers Epstein qui peuvent concerner Trump. Il y a un tas de choses qui montrent que les États-Unis sont encore sous domination du judaïsme politique. Et c'est pour ça que c'est très dommage alors qu'on a une longue histoire en Europe, que certains dans notre camp choisissent de prendre modèle sur Trump, alors que c'est quand même quelque chose d'assez, c'est quand même un personnage assez vulgaire, un personnage qui ne correspond pas du tout à notre mentalité européenne, à notre mentalité enracinée. Donc c'est assez dommage que dans notre camp, il y ait une admiration aussi grande pour Trump, qui, encore une fois, dans cette affaire au Venezuela, comme dans beaucoup d'autres affaires, se comporte comme un gangster, d'autant plus que il a, en ce moment, Trump, des vues, notamment en Europe, on peut penser au Groenland, donc il a des vues contre l'Europe directement, et que finalement, toutes ses interventions au Venezuela, peut-être demain au Panama ou je ne sais où, à terme, sont complètement contre nos intérêts. Donc il est difficile de comprendre comment des personnes se revendiquant du camp national n'arrivent pas à comprendre cette évidence, même si on comprend, c'est parce qu'elle reste dans un schéma dépassé qui est celui de l'anticommunisme, notamment, je pense.
Sous Bill Clinton, déjà, les États-Unis avaient des vues sur l'Europe, notamment avec l'intervention en ex-Yougoslavie, où ils ont pu implanter une des plus grandes bases, voire la plus grande base en Europe, et aussi avec des histoires de mines de cuivre, etc. Donc, c'est vrai que ça ne remonte pas. Hier, toute cette histoire, on peut dire que, justement, le droit international, ça n'a jamais vraiment été une norme, parce que même quand on se renseigne sur Internet ou dans les livres, c'est un peu une idée vague, c'est un peu comme un accord tacite entre tout le monde, mais qui reste un peu à celui qui veut bien le respecter. Est-ce que, Koba, tu as quelque chose à dire sur ce droit international qui aujourd'hui n'est plus vraiment une norme, mais plus un instrument ?
Ouais, moi je pense que le droit international n'a véritablement jamais existé, dans la mesure où, en fait, les États-Unis ont toujours défendu, comme l'a dit Bruce, un primat de la force sur le droit. Et à partir de cette intervention, je pense qu'il faut vraiment en tirer les bonnes leçons, et qu'il faut, dans la mesure où le prochain dossier, en effet, c'est le Groenland, en fait, je pense qu'il faut abandonner cette méthode de communication sur la question d'un droit international, et tout simplement tirer leçon du Trumpisme au niveau du réarmement et de toutes ces modalités.
Jacques, est-ce que tu penses que si justement la France était dans une situation de puissance, elle réagirait de cette manière violente avec des pays sur lesquels elle aurait des vues énergétiques ou autres?
Ah, bah, ça dépend de quel gouvernement dominerait la France maintenant.
Si on faisait un jeu de l'esprit et que c'est nous qui dominions, est-ce que justement nous agirons avec la force, ou est-ce qu'on respecterait ce droit de Westphalie, un peu cette espèce d'international droit?
Si nous dominions, quand les gens dominent mécaniquement, alors ça peut être malheureux d'ailleurs, ils ont tendance à utiliser leur domination pour conquérir. Bon, on pourrait prendre l'exemple de Napoléon, hein, mais après c'est un contexte différent, puisque les nations étaient coalisées contre lui dans le contexte politique qu'il connaissait, et ils ont juste été matés, Napoléon les a matés de manière brillante. Maintenant, le seul exemple que je pourrais prendre, la France, alors je dirais pas qu'elle dominait à l'époque, mais en tout cas elle avait une puissance qui était quand même non négligeable, et c'était justement pour empêcher l'émergence d'une autre puissance, c'était juste avant la Première Guerre mondiale, où la France, de concours avec l'Angleterre, ont voulu empêcher la croissance inexorable de l'Allemagne, notamment avec son rapprochement avec la Russie, avec l'Empire ottoman à l'époque, et c'est ça qui a déclenché donc l'histoire du Bagdad-Bad, c'est ça qui a déclenché la Première Guerre mondiale, c'était une volonté, entre autres, il y a d'autres éléments, mais de barrer la route à l'émergence de la puissance industrielle allemande. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, si demain, imaginons dans le contexte d'aujourd'hui, la France devient la première puissance militaire du monde, et de loin, eh bien je pense qu'avec la mentalité qu'on a aujourd'hui, il est possible que la France se comporte comme telle. Et en même temps, je me dis, ça dépend avec qui. C'est-à-dire que est-ce que la France le ferait avec des puissances militaires conséquentes également? Parce que les États-Unis, par exemple, en ce qui concerne le Groenland, c'est donc ça appartient au Danemark, qui est allié, enfin formellement en tout cas, à des puissances comme la France, qui est une puissance nucléaire, et pourtant Trump ne se gêne pas pour dire qu'il en a un peu rien à secouer. Et à la limite, il aurait tort de s'en priver, puisqu'en face, les réponses, c'est soit des gens qu'il condamne pour des mauvaises choses, ou des serpillières. Donc, on ne va pas reprocher à quelqu'un de... Enfin, les États-Unis sont comme ça depuis très longtemps, c'est vrai. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que si demain la France, dans l'état actuel des choses, avait la puissance, alors en y réfléchissant bien, peut-être, et en même temps, je me dis que vu l'échec monumental de la France en Afrique subsaharienne, peut-être pas, mais en gros, c'est complexe. Mais je dirais, vu qu'elle n'a pas la tradition, quand les États-Unis ont un impérialisme, pas autant que les États-Unis. Donc, on va plutôt pencher vers dominer, mais sans volonté de conquérir à outrance, et de déclencher des guerres sous faux prétexte. Mais c'est complexe.
Est-ce que ça vous dit de participer à ce jeu de l'esprit, Hilda, Alex, Koba? Un peu imaginer si nous étions la première puissance militaire.
Oui, moi, en fait, je pense que, alors, enfin, si on était au pouvoir, si c'était un gouvernement, en tout cas, nationaliste, juridiquement parlant, les relations internationales ne devraient pas être gérées par un droit international nébuleux, mais par des traités, des conventions qu'on signe, c'est-à-dire des contrats, finalement, de niveau international qu'on signe avec d'autres États et qui permettent de régler nos relations économiques et toutes sortes de relations avec eux, toutes sortes d'échanges, ou pas d'ailleurs, et c'est par cette voie-là qu'en réalité on est censé traiter avec des pays étrangers, parce que c'est un signe de souveraineté, un contrat en droit civil, c'est deux volontés de personnes individuelles qui ont une volonté et qui sont capables de contracter, qui concluent ce contrat ensemble. Et bien c'est comme ça que ça devrait se passer au niveau international, ce sont deux États souverains qui concluent ensemble un contrat, et après c'est comme dans un contrat civil, c'est le respect de la parole donnée, et on doit respecter normalement les traités qu'on a conclus. En tout cas, c'est à mon avis comme ça que ça devrait se passer au niveau international, et non pas par ce droit international justement qui est nébuleux, qui est un peu insaisissable, flottant, mouvant pour ceux qui étudie le droit international, c'est une véritable plaie d'ailleurs, parce que voilà, c'est très mouvant, c'est compliqué à capturer, ce sont des grands principes évanescents, et souvent, effectivement, les États-Unis, parce qu'ils sont à la, je dirais presque à l'origine de ce concept de droit international, le manient un peu comme bon leur semble finalement, ce qui n'est pas équitable.
Je peux juste ajouter que tout ce qu'on dira pourra être retenu contre nous lors d'un procès au tribunal de Nuremberg. Voilà.
Alors, vu que les États-Unis jouent un peu leur dernière carte pour garder un semblant de force, parce que si on regarde, les États-Unis sont en pleine déliquescence quand même dans leur politique intérieure. Il y a beaucoup de tumulte. Alors, vu que l'Europe est vassalisée aux États-Unis, est-ce que son seul espoir est de jouer cette guerre, ces va-t-en-guerre qui partent à l'Est? Est-ce qu'il y a un peu de ça là-dedans? Est-ce que c'est pour ça que Macron, par exemple, s'excite autant sur cette question d'aller faire la guerre à la Russie pour garder lui aussi un semblant de puissance?
Macron est un président qui aime bien jouer un peu les gros bras, même si en réalité il n'a pas du tout les moyens d'assumer souvent ses prises de position un peu trop virulentes, qui d'ailleurs font parfois rire la Russie, ou même Trump a déjà un peu rigolé de Macron. Mais oui, c'est bien possible que ce soit pour redonner une certaine illusion de puissance. Je pense que ça tient peut-être même à sa personnalité, à lui-même, plus qu'autre chose, mais je ne sais pas ce qu'en pensent les autres.
Alors je dirais que si c'est le cas, si c'est la stratégie, elle est très mauvaise, parce qu'elle est contre-productive, puisque d'un côté... L'Élysée va jouer effectivement les gros bras face à la Russie, ce qui n'a aucun impact vraiment sur le terrain. Et de l'autre, la France, il faut quand même le remarquer, n'a pas tellement une réponse, n'a jamais ce comportement avec des pays qui sont réellement hostiles, comme l'Algérie par exemple. Donc bon, c'est pour ça d'ailleurs que peu de gens prennent au sérieux le cirque de Jupiter Ier. Il faut rappeler quand même que certains de ses partisans l'appelaient comme ça, c'est dire, voilà, qui est Heureusement pour lui que le ridicule ne tue pas, il serait mort depuis longtemps. Et voilà, je pense que si c'est la stratégie qu'il emploie, c'est très mal paré. Non, la vraie raison de l'engagement fanatique pour l'Ukraine de la part de l'Élysée, c'est que c'est dans les intérêts du Judapo. Hein. Il faut rappeler ce que disait BHL, et puis on le voit avec d'autres éléments, hein, les oligarques ukrainiens, Shylock. BHL disait Israël et l'Ukraine, c'est le même combat. Donc je pense que c'est plus juste un alignement sur des positions mondialistes et sous le magistère du Judapo, afin de faire la guerre contre un axe qui remet en cause l'empire judéo-anki, qui est global, donc en Ukraine et en Palestine occupée. Voilà.
En tout cas, cette attaque contre le Venezuela nous permet d'encore une fois rappeler que le nationalisme n'est pas la haine de l'autre, c'est bien le droit d'un peuple à décider pour lui-même, comme Hilda, tu nous l'as rappelé tout à l'heure, à travers de conventions, de discussions, et non pas d'agressions brutales. Et c'est aussi toujours avoir une coopération, qu'elle soit économique ou culturelle, avec les autres et chacun chez soi. Revenons à nos moutons, revenons en France, vers notre beau terroir. Et comment ne pas penser à nos amis agriculteurs qui en ce moment sont en train de converger vers Paris, au moment même où nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Ils ont promis envahir Paris le 6 janvier, et c'est depuis le 5-4 janvier qu'ils se préparent, même notamment depuis la Corse, ils arrivent avec des ferries, avec les tracteurs, telle une armée en bleu de travail, avec les fourches, ce qui nous rappelle les plus beaux moments d'un peuple qui vit et qui résiste. Et ce soir, justement, ils sont devant l'Assemblée. Il y a aussi des blocages, j'ai entendu dire, au niveau de l'Espagne, sur la frontière espagnole, où les paysans sont en train de regarder et de mettre de côté les marchandises étrangères pour qu'elles ne soient pour dire aux Français consommez votre terroir au lieu d'aller chercher ailleurs. Et tout ça dans un contexte d'accord justement avec l'Amérique du Sud, avec le marché de l'Amérique du Sud, le Mercosur que veut nous imposer Bruxelles à travers von der Leyen. Et bien sûr, nous nationalistes, à travers notre chef Yvan Benedetti, sommes présents sur le terrain, et aussi d'autres comme des chefs de section qui sont là avec les agriculteurs, avec les paysans, et qui les encouragent et les soutiennent.
Alors, tu as parlé rapidement des mobilisations des agriculteurs sur Paris. Alors, n'étant pas parisien et étant occupé, je n'ai pas pu y être. Mais je crois que notre ami Koba y a fait un rapide tour aujourd'hui. Et je pense qu'il peut peut-être nous faire une petite synthèse de ce qu'il a pu observer à Paris, s'il le veut.
Oui, effectivement, Bruce. Eh bien, alors pour rappel, sous la consigne de la coordination rurale du syndicat, ils avaient appelé les agriculteurs à monter sur Paris. Ils étaient censés arriver le mardi 6, mais ils ont été bloqués dans les Yvelines, et bloqués évidemment par les gendarmes, hein, par les chiens de garde de la République. Et ils ne sont arrivés finalement sur Paris qu'à 3h du matin aujourd'hui, donc ils ont roulé toute la nuit, malgré le froid, malgré la boue, malgré les embûches, et ils ont réussi à trouver du soutien auprès de camarades qui ont notamment réussi à les héberger en Ile-de-France, et ils sont parvenus à faire leur route sur Paris. Ils sont parvenus à se focaliser sur 4 zones, à savoir la zone de la Tour Eiffel, la zone de l'Arc de Triomphe et surtout la zone de l'Assemblée nationale, qui était censée être le point de convergence de toutes les zones et qui devait, on va dire, rassembler le plus de Français possible. Alors, ce que j'ai pu observer et ce que je peux, on va dire, déduire de ma participation à ces manifestations, c'est vraiment l'idée que les paysans doivent absolument se libérer de la gangue que si j'ose dire, des syndicats, des coopératives et notamment des banques, hein, parce qu'en fait, il faut le rappeler, les agriculteurs sont devenus des fonctionnaires de la terre, ils sont devenus malgré eux des esclaves de la dette bancaire, Et finalement, ils sont finalement, même dans la représentation, dans les syndicats, dans toutes ces associations, malheureusement, en fait, on ne voit plus la liberté, la parole paysanne, on va dire, être réellement exprimée. Et on l'a vu, en fait, finalement, ce soir, avec notamment au niveau de la porte d'Auteuil, car c'était l'une des quatre zones où les agriculteurs étaient censés faire le siège de Paris. Ils n'avaient pas réussi à passer le barrage et finalement ils n'ont obtenu que très peu de soutien finalement de la population et des locaux tout autour dans leur lutte. Donc en fait cela montre en fait tout un schéma de repenser des modalités de l'agriculture, de finalement de sortir de ce schéma de l'enfer, quoi.
Jacques, je t'en prie.
Alors, bah déjà, je remercie Koba d'avoir livré, enfin, d'avoir participé à ces manifestations et puis de nous avoir livré ce témoignage intéressant. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'était prévisible que ce soit un échec, parce que si j'ai bien compris, bon, bah, ça n'a pas pris. Et il y avait quelqu'un qui en avait parlé de cette probabilité que ça ne marche pas, c'était l'ancien gendarme Alexandre Juvin Brunet, qui disait que sur Paris, ils sont 50 000 policiers à pouvoir agir, et qui sont parfaite connaissance du terrain, donc un terrain favorable, avec des armes beaucoup plus puissantes qu'avant, parce que les gilets jaunes avaient fait peur. Alors que quand il y a eu l'affrontement dans les campagnes contre l'abattage des 200 bêtes, parce qu'il y en a une qui avait la maladie dont j'ai plus le nom là,
Alors, c'est la dermatose nodulaire, ou dans le Gers, oui, aussi, il y a eu un grand mouvement, une grande
voilà.
protestation, je le dis, Jacques,
Merci Bob.
grande résistance.
Merci Bob. Et là, on avait. En fait, le problème, c'est qu'ils sont allés. Donc, ils sont partis des paysans d'un terrain qui leur était favorable pour aller à un terrain qui leur est même hostile. Parce que une bonne partie des. D'ailleurs, comme elle a dit, des populations à la base ne se sentent pas solidaires, on ne se solidarise pas par l'action. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une solidarité dans la pensée, mais ne vont pas descendre dans la rue pour défendre le droit des paysans à ne pas crever parce que les traités internationaux acceptent toutes les. Enfin, les traités mondialistes, libre-échangistes acceptent toutes les marchandises venues du monde. Tu as bien eu raison de faire remarquer que notre chef, Yvan Benedetti, est allé à ces manifestations dans le sud de la France, en Espagne, donc dans le nord d'Espagne, qui a les mêmes problèmes. Hein. Les phalangistes le rappellent souvent, il y a un gros problème chez les paysans espagnols également. Et je pense en Europe globalement, Roumanie, Allemagne, enfin bref. Alors, l'autre chose, c'est dont se parlait Koba, et après je laisse la parole à Aïda, c'est effectivement le problème des syndicats, FNSEA et les autres, là, dont la Confédération paysanne et la Coordination rurale, enfin, les Rouges et autres. C'est que bah, ce sont des syndicats, et fidèles eux-mêmes, en fait, ils défendent surtout leur boutique. Et on le voit bien, je veux dire, c'était quand même assez prévisible que ce soit un échec, ils l'ont quand même fait, mais ça leur fait une publicité assez importante. Et une des raisons qui explique le fait qu'il y a un désintérêt de la part des Français sur le sujet paysan, c'est ce que Boris Lelay nomme le corporatisme noir de la population paysanne, qui consiste à seulement se soucier de leur corporation et de n'en avoir strictement, pas pour tous, hein, bien sûr, rien à faire des autres. Voilà. C'est-à-dire que si les infirmiers se mobilisent, pas de soutien paysan. Si même des gens comme Koba, par exemple, vont dans une manifestation, Koba qui n'est pas paysan, qui vont dans une manifestation en soutien aux paysans, vont en garde à vue suite à cela, eh bien, il n'y aura pas de caisse de soutien venant de la plupart des paysans. C'est triste à dire. Et c'est ce corporatisme noir qui fait qu'il y a cette fracture et ça enlève encore plus de la force de frappe des paysans, bon, plus certains aspects de manque de formation politique. C'est-à-dire, en fait, vouloir juste quelques miettes en plus plutôt que de remettre en question ce système qui est intrinsèquement pourri. Et donc, ça, c'est une notion.
Merci. Merci beaucoup, Jacques, pour ces précisions. Et notamment, on peut citer aussi Pierre-Guillaume Mercadal, qui, pour une fois, est une figure sincère, qui représente un mouvement entier de cette paysannerie. Hilda.
Je vais laisser Bruce qui voulait dire quelques mots, je prendrai la parole juste après lui.
Ce qui est intéressant, effectivement, c'est dans plus la question des modalités d'action, effectivement, employées par les paysans. Alors, certains dans notre camp ont un peu eu, je pense, un défaut en critiquant justement les blocages faits par les paysans sous prétexte que les blocages pouvaient dissuader la population d'être du côté des paysans, parce qu'effectivement, un blocage, c'est rapidement ça peut rapidement poser quelques inconvénients, notamment d'un point de vue professionnel, du ralentissement pour se rendre sur son lieu de travail. Je pense que, et effectivement, j'ai rencontré des gens qui sont, on va dire, d'extrême droite radicale, et qui, pourtant, n'apportaient pas, quand je discutais avec eux, leur soutien aux agriculteurs, notamment parce qu'ils avaient eu affaire à des blocages. Je pense que c'est un mauvais raisonnement que celui-là. Il faut, par principe, apporter notre soutien aux agriculteurs, notamment parce que l'agriculture, c'est un pilier essentiel de notre souveraineté. Et donc, nous n'avons pas à réfléchir à ce que les blocages, ça va décourager la population d'être avec les agriculteurs ou pas. C'est des questions qui sont largement secondaires. Et en premier lieu, il faut apporter notre soutien aux agriculteurs d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue de l'action. C'est pour ça que Coba, par exemple, s'est rendu sur lieu à Paris. Les zones qui étaient d'ailleurs visées à Paris étaient relativement intéressantes, je trouvais. En amont, l'Assemblée nationale, j'aime bien. Ça me rappelle un peu le 6 février 34. On vise un peu quand même le parlementarisme, justement cette soumission du pouvoir, notamment à Bruxelles, cette soumission du pouvoir aux technocrates. L'Arc de Triomphe, j'aime bien. Il y a une dimension un peu patriotique. Ça me rappelle un peu les Gilets jaunes, justement avec l'épisode de l'Arc de Triomphe. On voit bien, c'est pas Place de la République. Donc même s'il y avait les syndicats, il y avait quand même une dimension un peu populaire, patriotique et sincère qui était intéressante dans les zones qui étaient visées à Paris. Donc il y avait quand même des éléments intéressants dans cette mobilisation, même s'il y avait des syndicats en jeu. Il faudra également, je pense, après cette crise qui va finir par passer, on sent bien que les révoltes sont stériles, seule la révolution est salvatrice. On sent bien que c'est une révolte qui va être stérile. Il faudra donc aussi en tirer, nous, en tant que nationalistes, des conclusions, notamment sur la manière dont les nationalistes ont réussi, dans cette crise, à s'impliquer, ont réussi à certains endroits ou de manière ponctuelle, à influencer le mouvement. On verra que c'était assez anecdotique, et que finalement, les nationalistes ou les groupes nationalistes ont plutôt échoué. Ils ont réussi à faire quelques banderoles, mais finalement, ils ont échoué à aller au contact des agriculteurs, à aller au contact du peuple réel dans leur démarche. Je pense que ça, il faudra en tirer la conclusion, un peu comme au moment des Gilets jaunes, où finalement les nationalistes étaient parfois restés entre eux, où il y a eu des problèmes et où il y a eu un échec finalement dans cet investissement et finalement pas réussi à accompagner véritablement le mouvement.
Je pense que c'est sûrement dû, mon cher Bruce, à un petit embourgeoisement de chacun d'entre nous, qui fait que la barricade, que le fait d'être bloqué nous dérange. Et ça, il faut le combattre au jour le jour.
Oui, je pense évidemment, oui. Et puis après, comme l'a souligné peut-être Koba, il y a aussi la question ou Jacques, il y a aussi la question de la mobilisation sur Paris ou de la mobilisation en province. Évidemment, Paris a une dimension très forte, c'est la capitale, mais a aussi toutes les difficultés liées à une mobilisation dans la capitale massive. Voilà, je vais laisser un peu la parole à Hilda.
De mon expérience, puisque je connais en fait un certain nombre de jeunes agriculteurs d'ailleurs, qui ont à peu près mon âge, et qui sont sur des positions très proches du nationalisme, très patriotes, plutôt radicaux. Et c'est assez étonnant parce que de tous ceux que je connais, je n'en connais aucun qui s'est mobilisé pour aller à Paris. Chose qui m'a un petit peu étonnée sur le coup, mais en fait en discutant avec eux, même si évidemment ils partagent en soi l'idée qu'une révolte serait nécessaire, ils sont pas montés dans les manifestations parce que pour eux c'était perdu d'avance, parce qu'ils savent déjà ils connaissent déjà très bien en fait ces syndicats, même ceux qui pourraient être classés plus à l'extrême droite en réalité, et pour eux c'était déjà joué d'avance. Ils savaient déjà que ces syndicats avaient en réalité pour objectif final d'aller négocier, mais je pense qu'il y a un vrai problème qui ne touche pas d'ailleurs que le secteur des agriculteurs, mais qui touche un petit peu tous les secteurs professionnels en France, qui est celui du syndicalisme. Et qu'il y a cette tradition socialiste en France dont on n'arrive pas à sortir, qui est que toute mobilisation, toute manifestation pour les intérêts d'une profession, aujourd'hui, c'est toujours monopolisé par les syndicats et on n'arrive jamais à sortir de cette boucle infernale. Et je pense qu'il faut apporter une réflexion sur comment on pourrait réussir à s'en sortir, puisque ça fait plusieurs fois, comme le disait Bruce, on peut lier ça aussi à l'épisode des Gilets jaunes, qu'on n'arrive pas à sortir de ce syndicalisme qui prend tout de suite le monopole des manifestations et empêche qu'il y ait autre chose, qu'il y ait un véritable, qu'il y ait de véritables effets à ces manifestations. Et ça décourage effectivement même les plus jeunes et les plus radicaux de participer, parce que finalement, pour eux, c'est presque un cirque au final.
C'est pour ça qu'il faut que les travailleurs ou les paysans, enfin tous ceux qui participent à notre pays, se rendent compte que les syndicats c'est un vrai métier, ce sont des professionnels, et que leur but n'est pas de sortir de la crise. C'est que des boutiques. Et lorsqu'ils comprendront ça, déjà, ça va les réveiller, je pense. En tout cas, Hilda, c'est un vrai plaisir de t'avoir en tant qu'intervenante. C'est très rafraîchissant. Je pense que ça ne sera pas ta dernière fois en tant qu'intervenante.
C'est bien étonnant. Je pose d'animateur avec plaisir. J'aime bien être de l'autre côté du micro.
Sur la crise des agriculteurs, aussi, nous avons vu qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a prévenu la Yenne qu'il ne signera pas le Mercosur.
Bah, tant mieux, pour une fois qu'il prend une décision. Alors après, c'est circonstanciel, on verra ce que ça donne sur le temps long. Et puis, c'est là où on voit que les mobilisations, en fait, leur problème, c'est qu'elles s'essoufflent rapidement. Sur le moment, l'État va dire, va négocier, ne va pas aller tête baissée dans les traités les plus dévastateurs, mais sur le temps long, ça va y aller, quoi. Maintenant, j'aimerais revenir sur un petit point, sur ce que disait Hilda et Bob en partie, sur notre c'est notre incapacité, enfin, cette situation où les nationalistes n'arrivent pas, ou ne sont pas invités à, influencer tout en laissant indépendants ces mouvements sociaux. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses, effectivement, syndicalisme, et là, pour le coup, on peut pas nous reprocher grand-chose, puisque les gens acceptent d'être syndiqués, d'accepter dans des boutiques. Ils ont leurs responsabilités personnelles. Il y a des groupes nationalistes, comme par exemple Mega Machina, que je salue d'ailleurs, qui nous a donné un entretien récemment, qui est très impliqué dans le rapprochement entre nationalistes et milieu paysan, au point de s'en prendre très violemment à Frontières pour une affaire de non-floutage de visage, en disant qu'ils avaient voué un pauvre paysan à la haine puisqu'il avait dit des propos politiquement incorrects, il n'avait pas flouté son visage. Alors, l'autre chaîne auquel je pense, c'est notamment le Cercle du Fric, qui parle souvent de la question paysanne et du fait qu'effectivement, il y a une déconnexion du peuple, y compris des gens qui se disent de nos milieux, de notre pensée politique, avec le milieu du terroir, le milieu de la populace, non, mais voilà, quoi, je veux dire, pas de pays sans paysans, comme on dit. Alors, je termine et après je te redonne la parole, Bob. Pour les blocages, je peux comprendre que ça la agace, puisque certains disent en même temps, non seulement ça bloque les petites gens, mais ça bloque très rarement les puissants. Petite suggestion, peut-être les blocages devant les préfectures ou comme ce qui s'est passé, ce qu'avaient fait des manifestants d'extrême gauche avec l'ancien ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, qui l'avait bloqué dans un train. C'est peut-être plus ça qu'il faut viser.
On a vu aussi que ça allait très très loin dans cette crise agricole, où notamment dans la ville d'Auch, il y a eu des paysans qui se sont fait braquer par la police. Carrément, ils leur ont pointé les 9 mm sur la tronche, enfin sur les tracteurs. et notamment Philippe Friedrich, qu'on salue, le commissaire Deutsch. Et je voulais passer un petit message aux paysans qui ont un peu une première expérience de la révolte comme ça, de rue, que la police et la gendarmerie ne sera jamais de votre côté. Et il faut oublier ça, parce qu'on a vu des appels des paysans à lâcher les boucliers, à venir avec eux, mais c'est de l'ordre du fantasme.
Les seuls policiers qui étaient avec eux sont justement ceux qui n'étaient pas là, qui se sont mis en grève pour ne pas participer à la répression des paysans.
Est-ce qu'on peut un peu parler de l'actualité de chacun d'entre nous? Enfin, si, par exemple, Hilda, je sais que le 17 janvier, tu vas donner une conférence à Paris sur le féminisme.
Oui, effectivement, le 17 janvier, alors vous savez certainement qu'il y a plusieurs événements le 17 et 18 janvier à Paris. Enfin, si vous ne le savez pas, je vous en informe. Il y a toujours il y a une marche organisée par les identitaires pour la Sainte-Geneviève et à la suite de ça, je donnerai une conférence à nos amis parisiens de l'Amitié Action Française, l'AF de Clément Gauthier, qui m'ont invité à faire une conférence sur le thème féminisme et nationalisme qui sera précédée d'une galette des rois. Et le lendemain, le dimanche, il y a la marche pour la vie à laquelle je serai bien sûr présente, puisque en tant que cariatide, mon devoir m'impose d'être présente dans les grands événements français qui défendent la vie, puisque c'est le combat des cariatides. Donc je serai présente à ces événements, et si vous voulez venir me rencontrer à Paris lors de cette conférence, eh bien n'hésitez pas, ce sera avec plaisir.
Nous avons également en Haute-Loire, le 17 janvier, une galette des rois en présence de Yvan Benedetti, chef du mouvement Les Nationalistes, et Pierre-Marie Bonneau, porte-parole du Front Nationaliste.
Je souhaite aussi, en ce 8 janvier, souhaiter une mémoire éternelle à Jean-Marie Le Pen, qui nous a quittés il y a presque jour pour jour, il y a un an de ça, presque jour pour jour. Chers amis nationalistes, chers intervenants, merci de nous avoir suivis pour cet épisode, pour cette deuxième saison qui commence. Merci beaucoup pour votre fidélité de l'année passée. Nous espérons que vous suivrez toute l'actualité nationaliste sur Jeune Nation. N'hésitez pas à consulter notre site, lire nos articles. Et d'ici là, haut les cœurs!
Vous étiez à l'écoute de Fréquence Jeune Nation, la voix des jeunes militants enracinés. Pour écouter toutes nos émissions et suivre nos communiqués, rejoignez notre canal Telegram officiel, @fréquencejeunenation. À partir de ce canal, vous pourrez également rejoindre notre groupe de discussion où vous pourrez laisser vos messages vocaux, questions, suggestions, critiques bienveillantes. Certains messages seront sélectionnés pour passer à l'antenne et nos militants y répondront dans les prochaines émissions. Faites entendre votre voix, participez. Engagez-vous. À très bientôt sur Fréquence Jeune Nation.